Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale s'intéresse à la CSU, la couverture santé universelle. Jugée incontournable pour certains pour éliminer la pauvreté, la CSU s'annonce d'ores et déjà comme un des enjeux clés du programme de développement de l'après 2015. Alors que les voix se multiplient pour parvenir à une couverture santé universelle d'ici à 2030, la France et le Japon ont récemment organisé, au siège de l'ONU à New York, une réunion spéciale pour examiner cette question. On écoute l'ambassadeur Gérard Haro, le représentant permanent de la France.
Comme vous le savez, dans mon pays, nous considérons que l'accès aux soins, ce n'est pas un bien que l'on achète sur le marché. L'accès aux soins est un droit de l'homme. Et c'est un droit de l'homme qui doit être ouvert le plus possible aux populations les plus vulnérables de la communauté nationale. Et donc, il était normal que nous étendions cette vision, je dirais, qui fait consensus dans mon pays, que nous l'étendions à l'ensemble du monde. Actuellement, on estime à 100 millions le nombre de personnes qui sombrent dans la pauvreté à cause des coûts exorbitants de santé chaque année. Donc, la couverture sanitaire universelle est à l'évidence un moyen de répondre à ces besoins qui s'imposent à nous dans la mise en place du futur agenda du développement pour le post-2015. C'est simple, il s'agit d'assurer à tous, sans discrimination et sans risque d'appauvrissement, un accès aux services de santé essentiels de qualité. Les obstacles, nous les connaissons, des systèmes de santé nationaux trop faibles, une appropriation insuffisante par les pays qui conduisent à de fortes inégalités dans l'accès aux services de santé.
Ainsi, pour beaucoup, en tant qu'acte politique fondamental, les bienfaits positifs de la CSU iraient bien au-delà de la simple bonne santé des populations. Le Japon a par exemple affirmé qu'il y avait une relation de cause à effet directe entre la couverture santé de sa population et son redressement économique après la Seconde Guerre mondiale. Et une récente étude de la commission Lancet sur l'investissement dans la santé démontre que le retour sur l'investissement dans la CSU pourrait représenter jusqu'à 24% de la croissance des pays en développement. Timothy Evans, directeur santé, nutrition et population de la Banque mondiale, livre d'autres précisions.
Ce que nous constatons, c'est qu'il y a de nombreux pays, plus d'une centaine, où les politiques s'orientent de plus en plus vers des réformes globales qui tendent vers des systèmes de couverture universelle. Les noms diffèrent, mais ce sont des réformes globales. Et elles sont poussées, et c'est très important, par le public. Le public au XXIe siècle a des attentes et veut des soins complets qui sont disponibles et de bonne qualité quand ils en ont besoin. Deuxièmement, nous avons de plus en plus d'indications du coût lié à l'absence de CSU. Cela compromet le développement à long terme. Les enfants sont compromis en ce qui concerne leur perspective éducative, car ils sont malades et dans une même veine, les travailleurs ne sont pas aussi performants qu'ils pourraient l'être s'ils étaient en meilleure santé. Mais ce qui importe le plus, c'est que les pays qui choisissent de lancer des réformes en faveur de la CSU constatent qu'elles sont à la fois plus efficaces et plus équitables que l'alternative.
J'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant d'être toujours patraque. Ah, mon Dieu, que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.
Même si la santé est une question qui concerne tout le monde, les opinions divergent toutefois, s'agissant de la meilleure approche à adopter en la matière. Les explications de Charlotte Soulary, chargée de plaidoyer sur la santé et l'éducation pour l'ONG Oxfam.
La difficulté, c'est que quand on parle de santé, on a des manières d'approcher les questions de santé qui peuvent être très différentes. On peut se concentrer sur des maladies ou sur des populations, finalement comme ça a été le cas dans les OMD. On peut se concentrer sur des enjeux beaucoup plus transversaux qui sont des enjeux liés au système de santé. On peut se concentrer sur les résultats en termes de mortalité, de baisse de la mortalité qu'on peut obtenir. La discussion en ce moment, elle est vraiment là-dessus, sur quelle approche est la plus efficace pour avancer vers ce qu'on veut tous et toutes, qui est la baisse des indicateurs de mortalité pour l'ensemble des populations et de manière à lutter contre les inégalités. Donc la couverture santé universelle, c'est une manière d'approcher les enjeux de santé qui est transversale et qui se concentre sur justement sur sur l'inégalité majeure à l'accès aux soins, qui est la barrière financière et qui en fait reflète les inégalités d'une population. Et la couverture santé universelle, c'est un enjeu qui vraiment concerne tous les pays. On le voit en ce moment aux États-Unis avec le débat sur Obamacare. On le voit dans énormément de pays riches. Je pense à la France qui a un des meilleurs systèmes de couverture maladie au monde. Et bien en France, il y a encore 15% de la population qui dit avoir renoncé au moins une fois à un service de santé pour des raisons financières. Donc c'est un enjeu qui concerne tout le monde. Il faut toujours dans ce débat repenser aux choix qui sont faits par les populations au moment d'une dépense de santé. Je prends souvent l'exemple de l'accouchement parce qu'en fait, et notamment les complications à l'accouchement, c'est extrêmement coûteux. J'ai rencontré beaucoup de femmes enceintes qui réfléchissaient. Hein, pendant 9 mois, on a le temps de réfléchir à comment est-ce que je serai en capacité de payer ma césarienne si je dois avoir une césarienne. Et ce choix-là, ce moment-là dans un couple, dans une famille, où on réfléchit à où est le budget pour mon acte de santé, souvent le choix il va être je vais économiser pour ça. À côté de ça, je vais éviter d'autres dépenses. Ces autres dépenses, c'est par exemple des dépenses économiques, des dépenses d'investissement dans une activité économique qui aurait pu permettre à cette famille de développer une activité économique rentable et de contribuer ainsi à l'économie du pays. C'est aussi des dépenses d'éducation, par exemple, hein, qui passent complètement à la trappe parce qu'on a besoin de ce budget santé dans le ménage. Donc les impacts, ils sont bien au-delà de la santé, ils sont sur le développement au niveau individuel, au niveau collectif et donc au niveau d'un pays.
Parmi les nombreux pays qui s'engagent actuellement sur la voie de la couverture santé universelle, il faut mentionner le Bénin qui a remis il y a à peine un an, le 21 juin 2013, la toute première carte d'adhérent au RAMU, le régime d'assurance maladie universelle. Le docteur Moufalilou Aboubakar, directeur adjoint du cabinet de la ministre de la Santé du Bénin.
Alors, quelques indicateurs de santé. Nous avons un taux de mortalité encore élevé, environ 2 500 ou 100 000 naissances vivantes. C'est relativement élevé. Une mortalité néonatale à 42 pour 1000. Et puis, le paludisme, la malaria, si vous voulez, constitue la cause fréquente de consultations. Elle représente à peu près 42% des consultations, que ce soit en termes de consultations, en termes d'occupation des lits ou en termes d'hospitalisation. Nous avons quand même une couverture sanitaire en infrastructure qui n'est pas mal. Presque 90% du territoire est couvert en infrastructure sanitaire, mais c'est la fréquentation qui pose problème parce que nous sommes environ à 50% de fréquentation pour un taux de couverture à 90%. Et l'une des causes, justement, c'est la barrière financière parce que les gens n'ont pas la capacité d'aller aux soins. Les conséquences financières du risque maladie sont désastreuses pour les populations. Selon nos comptes de la santé de 2005, le paiement direct s'élève à 52%, c'est-à-dire ce que en termes de dépenses, les familles payent directement 52%. Et vous retenez que de ces 52%, 76% sont consacrés uniquement aux médicaments. Alors vous comprenez que c'est une source d'appauvrissement, même pour les populations qui sont plus ou moins aisées, telles que les agents permanents de l'État, ce n'est pas évident. Il n'est pas évident pour un agent permanent de l'État de pouvoir supporter une hémodialyse, par exemple, ce n'est pas possible. Les maladies chroniques, ce n'est pas possible. Donc le risque n'est pas uniquement pour les populations vulnérables, mais c'est également pour toute la population du reste. Donc nous pensons que la couverture sanitaire universelle, en levant justement ces barrières, va nous permettre d'accroître le taux de fréquentation dans nos formations sanitaires et donc de pouvoir bénéficier à fond des grands investissements qui sont faits à l'État et par nos partenaires financiers en termes d'infrastructures sanitaires.
S'agissant des principales difficultés à affronter en matière de CSU, il faut bien sûr mentionner l'épineuse question de son financement, surtout pour les pays en développement. Afin de financer le RAMU, le Bénin a par exemple opté pour un système de cotisation directe des adhérents. Les précisions du docteur Moufalilou Aboubakar.
Alors les montants de cotisation, notre système, c'est 2 dollars, ça fait 1 000 francs CFA, ça fait 2 dollars par personne par mois. ça peut paraître important, mais je vais juste rappeler un argument que mon ministre a l'habitude de sortir. $2, c'est juste le prix d'une bière. Donc, on demande à chacun de se priver d'une bière tout simplement par mois pour pouvoir assurer sa santé. Je crois que ce n'est pas trop demandé. Mais c'est vrai que pour certaines populations, c'est beaucoup, effectivement. Il y a actuellement ce que nous appelons au pays, au Bénin, le Fonds sanitaire des indigents. Donc, c'est un fonds qui est logé au niveau des préfectures et qui permet de prendre en charge les indigents, vraiment les personnes complètement démunies. Donc, notre première stratégie, c'était de pouvoir utiliser ce fonds-là pour pouvoir payer les droits d'adhésion des indigents. Mais vous comprenez que cela nécessite que nous puissions vraiment définir ce qu'on entend par le véritable indigent, ce qui n'est pas une chose mince, parce que vous avez des tentatives de fraude qui vont se faire. Donc, finalement, ce qui a été convenu, c'est que tout le monde va payer. Tout le monde va payer, mais un mécanisme sera quand même mis en place pour pouvoir prendre en compte ces indigents-là. Parce que, comme on le dit, tout ce qui est gratuit est toujours mal utilisé. Nous pensons que si nous prenons en compte peut-être 1 million d'individus en 2014, si nous avons environ 1 million d'adhérents, le coût va s'élever à 26 milliards de francs pour la couverture, 26 milliards de francs CFA. Et les cotisations que nous espérons, c'est autour de 13 milliards, donc il se dégage un gap d'environ 15 milliards. C'est pour vous dire que, comme on le disait, la volonté politique doit être là. L'État ne peut pas se soustraire de cette affaire-là. Nous espérons qu'avec le temps, nous avons dit, nous allons développer des sources innovantes de financement. Nous allons mettre des taxes, par exemple, sur les alcools, sur le tabac. Nous espérons que nous allons pouvoir accroître les sources de financement et que, chemin faisant, nous allons pouvoir baisser cette contribution. Comme je l'ai dit, c'est un long voyage. Nous avons commencé. Nous essayons certainement d'ajuster avec le temps.
Pour Oxfam, l'objectif ultime à atteindre serait toutefois l'établissement d'un véritable système de solidarité nationale. Charlotte Soulary.
Alors, il y a deux enjeux fondamentaux. Le premier enjeu, c'est de supprimer le paiement direct des soins par l'usager. C'est-à-dire que quand vous avez un accident, que vous devez aller en urgence à l'hôpital, quand vous êtes sur le point d'accoucher, vous avez besoin d'accéder aux services de santé immédiatement. Et d'y accéder sans avoir à payer juste avant d'y accéder ou juste après. Qui dit suppression du paiement direct dit que à un moment donné il faut pouvoir payer pour un État, il faut être en mesure d'assumer ce paiement. Et ça, c'est la deuxième étape. C'est comment est-ce qu'un État peut mettre en place des mécanismes de solidarité nationale pour que l'ensemble de leur population soit en capacité justement d'accéder aux services de santé au moment où ils en ont besoin. Et la problématique, c'est justement quand on a 80% de sa population qui travaille dans le secteur informel, comment est-ce qu'on arrive à couvrir cette population-là sans aller chercher des contributions liées au salaire. Au Ghana, par exemple, la couverture santé universelle du Ghana, elle est financée notamment par la taxe sur la valeur ajoutée, qui donc s'applique finalement à l'ensemble de la population. Et qui permet d'éviter cette contribution liée au salaire. On oublie souvent dans le débat sur la couverture universelle à quel point le budget des États peut être développé grâce à une meilleure taxation des entreprises et de l'activité économique de leur pays. On oublie souvent de faire le lien avec l'évasion fiscale des multinationales ou avec les exemptions fiscales qui sont accordées à des entreprises qui travaillent dans les pays. Le débat sur la couverture santé universelle, il est absolument indissociable du débat sur la fiscalité, sur les choix de fiscalité que font un État.
De nombreux défis se profilent donc à l'horizon qui mériteraient d'être résolus, comme l'a souligné le secrétaire général Ban Ki-moon, pour lequel la couverture santé universelle représenterait en effet un investissement relativement modeste aux retombées immenses. Et c'est ainsi que se referme cette édition du magazine Escale. Escale, un magazine préparé et présenté cette semaine par Isabelle Dupuis avec la collaboration de Rebecca Mudio. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.